Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact pour vous accompagner. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Et sans plus attendre, voici le programme de notre émission. Un attentat terroriste a frappé une salle de concert dans la région de Moscou. Plusieurs experts africains nous ont livré leurs analyses. Un élu français a été démis de ses fonctions pour avoir participé à l'élection présidentielle russe en tant qu'observateur. Il fera part de ses impressions à notre micro. La conférence internationale Dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur s'est tenue à Moscou. Les ministres maliens, burundais ainsi que le vice-ministre guinéen de l'enseignement supérieur nous ont partagé leurs attentes de la coopération avec la Russie. Et retrouvez également dans ce numéro le Forum international sur l'énergie nucléaire Atom Expo qui a ouvert ses portes dans le sud de la Russie, le dépouillement de l'élection présidentielle sénégalaise qui est actuellement en cours et Emmanuel Macron qui parle d'envoi de troupes en Ukraine pour plaire aux États-Unis selon Sergueï Lavrov. Le géant russe du nucléaire Rosatom accueille ses partenaires du 25 au 26 mars sur le territoire de Sirius, situé au bord de la mer Noire pour le forum international Atom Expo. Il rassemble des émissaires de 75 pays, soit 4500 personnes au total. C'est le plus grand forum international sur l'énergie nucléaire. De hauts responsables venus du Mali, du Burkina Faso, du Rwanda sont attendus sur place. Organisé en Russie depuis 2009, le forum a vu des dirigeants d'entreprises clés de l'industrie nucléaire mondiale, des agences gouvernementales, des organisations internationales et des experts de premier plan y prendre part. Depuis sa première édition, plus de 49 000 délégués et invités de 89 pays ont visité le forum et plus de 55 000 accords ont été signés pour un montant total de plus de 63 milliards de dollars. Les Sénégalais se sont rendus dans les bureaux de vote afin d'élire le successeur du président sortant Macky Sall. Alors que le dépouillement est toujours en cours, les spéculations vont bon train. Le camp du candidat Amadou Ba s'est dit certain qu'il y aura un second tour, tandis que l'autre candidat Bassirou Diomaye Faye, donné largement en tête selon les premiers résultats provisoires, semble se rapprocher d'une victoire dès le premier tour. Toutefois, il faudra attendre encore quelques jours avant de connaître les résultats officiels de l'élection présidentielle sénégalaise. La proclamation des résultats provisoires interviendra au plus tard à minuit, le vendredi qui suit le scrutin, soit le 29 mars. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel à partir du 3 avril. Pour rappel, ce scrutin a été précédé d'une crise politique qui avait secoué le pays lorsque les autorités sénégalaises ont annoncé le report de l'élection qui devait se tenir initialement le 25 février. Il a finalement été décidé d'organiser le vote le 24 mars, laissant aux différents candidats seulement 2 semaines de campagne électorale. Emmanuel Macron est en opération séduction vis-à-vis des États-Unis. C'est ce qu'a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans une interview pour un documentaire diffusé à la télévision russe. Selon lui, ses discours concernant un envoi de militaires français sur le front ukrainien ont également pour objectif de provoquer les alliés au sein de l'OTAN. Ainsi, selon le chef de la diplomatie russe, Paris cherche ainsi à saper les positions de Berlin au sein de l'UE sur fond de rivalité franco-allemande. Et justement, cette phrase lâchée récemment par Emmanuel Macron n'a pas eu l'effet escompté au sein des pays membres de l'OTAN. Elle a non seulement divisé les États sur cette question, mais également choqué les opinions publiques occidentales qui n'ont pas envie de voir leurs soldats mourir pour l'Ukraine. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. La barbarie a frappé la région de Moscou le 22 mars dernier. Un groupe de terroristes a fait irruption dans la salle de concert du Krokus City Hall alors qu'un concert du groupe de rock russe Picnic s'apprêtait à commencer. Le bilan est lourd. À l'heure où nous enregistrons cette émission, 137 personnes ont perdu la vie et 182 ont été blessées. Alors que l'heure est au recueillement et à la prière pour ceux qui ont péri, plusieurs interrogations émergent. Il faut se tourner vers l'Occident pour trouver des pistes, et plus particulièrement vers Londres et Washington. Les ambassades de ces pays avaient averti début mars d'un risque d'attentat terroriste en Russie et exhorté notamment leurs concitoyens à éviter d'assister à des concerts. Pourquoi n'ont-ils pas prévenu Moscou s'ils avaient des données d'une potentielle attaque terroriste? Pourquoi les assaillants qui ont pris la fuite se dirigeaient-ils vers la frontière ukrainienne? Peut-on y voir la main de Kiev derrière cet attentat? Washington et Kiev nient ces allégations. Dans le camp occidental, on affirme à tue-tête que c'est l'organisation terroriste État islamique qui est derrière cet acte ignoble. Or, Moscou a écarté cette piste et étudie activement celle d'une implication ukrainienne. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que toute phrase de Washington visant à justifier Kiev de sa non-implication sera considérée comme preuve jusqu'à la fin de l'enquête. Madame Zakharova a rappelé que les élites américaines ont fait preuve d'habileté ces dernières décennies pour détourner l'attention de crimes très médiatisés et de toutes sortes de mises en scène. Quant aux quatre terroristes, ils ont été interpellés comme il se doit dans la région de Bryansk, non loin de la frontière avec l'Ukraine. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le président russe Vladimir Poutine a réagi à cette attaque terroriste dans une allocution télévisée que je vous propose d'écouter tout de suite.
Les quatre auteurs directs de l'attaque terroriste, tous ceux qui avaient tiré et tué des gens, ont été retrouvés et placés en détention. Ils tentaient de s'enfuir et se diriger vers l'Ukraine, où, selon des informations préliminaires, une fenêtre avait été préparée du côté ukrainien pour leur permettre de franchir la frontière de l'État. Au total, 11 personnes ont été arrêtées. Le service fédéral de sécurité russe et d'autres services des forces de l'ordre se forcent d'identifier et de découvrir l'ensemble de la base auxiliaire des terroristes, ceux qui leur ont fourni des moyens de transport, qui ont élaboré des plans pour la fuite de la scène du crime et qui ont préparé des caches d'armes et de munitions. Je le répète, les services d'enquête et les forces de l'ordre feront tout leur possible pour établir tous les détails du crime. Mais il est d'ores et déjà évident que nous n'avons pas seulement affaire à un attentat terroriste soigneusement et cyniquement planifié, mais à un meurtre de masse préparé et organisé de personnes pacifiques et sans défense. Les criminels voulaient tuer de sang-froid et délibérément tirer à bout portant sur nos citoyens, sur nos enfants. À l'instar des nazis, qui ont commis des massacres dans les territoires occupés, ils prévoyaient d'organiser un spectacle d'exécution, un acte d'intimidation sanglant. Tous les auteurs, organisateurs et commanditaires de ce crime seront justement et inévitablement punis, qui qu'ils soient, par qui qu'ils soient dirigés. Les terroristes, les assassins, les inhumains qui n'ont pas de nationalité et ne peuvent être nationalisés n'auront qu'un sort peu enviable, le châtiment et l'oubli. Ils n'ont pas d'avenir. Notre devoir commun, nos camarades de combat au front, tous les citoyens du pays, est d'être ensemble dans le même rang. Je crois qu'il en sera ainsi, car rien ni personne ne pourra ébranler notre cohésion et notre volonté, notre détermination et notre courage, la force du peuple uni de Russie. La Russie a traversé plus d'une fois les épreuves les plus difficiles, parfois insupportables, mais elle en est sortie encore plus forte. Il en sera de même aujourd'hui.
À l'international, cet attentat est unanimement condamné par de très nombreux chefs d'État et organisations politiques, y compris en Occident. Sur le continent africain, plusieurs dirigeants africains ont adressé au chef du Kremlin leurs condoléances suite à cet attentat ignoble. Je vous propose d'écouter de son Excellence, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur.
Je voudrais d'abord adresser toutes mes condoléances au peuple russe et leur témoigner la compassion et la solidarité de Burkina Faso. Ces ennemis de la paix et de la concorde ont une signature qui ne fait honneur à personne, c'est de la lâcheté. Surgir dans une salle de concert et tirer à bout portant sur des civils, c'est un acte inqualifiable. Et nous condamnons vraiment cet acte qui n'est rien d'autre que de la barbarie. C'est un visage ignoble de la barbarie.
Plusieurs experts africains nous ont partagé leurs condoléances ainsi que leurs analyses de cet attentat survenu au Krokus City Hall. Je vous présente Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Modeste Dossou, analyste et chroniqueur béninois, Lianoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabé, Abdoulaye Diallo, président fondateur du réseau des communicateurs chargés de communication du collectif pour la refondation du Mali, et Sylvain Takoué, écrivain ivoirien. Monsieur Dossou, une attaque terroriste dans la région de Moscou a eu lieu ce vendredi soir. Au moins 143 personnes ont été tuées dans la salle de concert par un groupe d'hommes. Comment qualifier cet acte qui a eu lieu dans la capitale russe ?
D'abord, je tiens à présenter toutes mes condoléances au peuple russe et à ses dirigeants qui, je suis sûr, ne cessent de travailler au jour le jour pour garantir la paix et la sécurité dans le pays et aider les autres peuples du monde à également garantir la paix et la sécurité dans leur pays. Après, je considère que cette attaque, comme toute forme de violence, est une attaque assez barbare, assez inhumaine, une attaque qu'il faut condamner, quelle que soit et un bord politique, quelle que soit l'idéologie. Ça ne devrait jamais avoir lieu. Donc je considère que c'est une attaque assez barbare, assez violente et inhumaine. C'est le genre d'attentat qu'il faut condamner et dont les auteurs doivent être punis avec la dernière rigueur. J'espère qu'ils le seront avec cette rigueur que nous connaissons aux autorités russes.
Monsieur Bayala, comment réagissez-vous à cet attentat?
Je dirais que c'est un acte barbare innommable. Innommable au vu de la gravité, de la terreur et de la boucherie à laquelle elles ont exposé des populations paisibles russes qui jouissaient de leur droit à un espace récréatif et le droit au loisir. Et s'en prendre à un espace de création et à des personnes qui profitaient de cet espace-là, c'est une remise en cause des libertés fondamentales des peuples à disposer d'eux-mêmes et surtout de la Russie qui venait de faire une démonstration de par la vivacité et la vitalité de sa démocratie de réélire le président Poutine. Et je pense que c'est un acte qui symbolise le fait que ceux qui l'ont posé sont pas purement et simplement humains. Et je présente mes condoléances les plus profondes et les plus attristées au peuple frère de Russie, aux autorités politiques et militaires, à toutes les personnes qui ont été affectées de loin ou de près par cela. Le Sahel et le Burkina Faso également témoignent toute sa solidarité au peuple frère de Russie.
Et vous, Monsieur Diallo, quelle est votre réaction face à cet attentat terroriste?
Tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances au peuple russe, aux familles des victimes qui ont trouvé la mort dans cette horreur. Je qualifie cette attaque de lâche, une attaque criminelle qui ne doit pas rester impunie. Nous avons écouté avec attention l'intervention du président Vladimir Poutine qui a été clair. Ceux qui sont les exécutants ont été arrêtés, mais ceux qui donnent l'ordre vont être pourchassés. Des enquêtes sont en cours. En tout cas, c'est un crime qui ne doit pas rester impardonnable, qui doit être sanctionné. Les auteurs doivent être punis pour ce crime odieux.
Et vous, Monsieur Takoué, comment réagissez-vous à cet attentat du Krokus City Hall?
Il est clair que c'est un acte terroriste. On ne peut pas trouver un autre qualificatif que cela. C'est de la barbarie. Une tuerie est toujours de la barbarie. Et comme tout acte de ce type, cela a donné à voir un vrai carnage. Plus d'une centaine de blessés et plus d'une centaine de morts. Toutes ces victimes ont été, par lâcheté, prises au dépourvu. Avoir attaqué ainsi le Krokus City Hall à Moscou rappelle quand même l'attaque terroriste du 11 septembre 2002 sur le World Center aux États-Unis d'Amérique. On a voulu faire croire, on a voulu même faire voir cette similarité, et c'est à dessein, pour que l'on pointe un doigt accusateur sur les terroristes orientaux.
Monsieur Bayala, les terroristes ont pris la fuite après l'attaque et ont été arrêtés non loin de la frontière avec l'Ukraine. Pourquoi ont-ils pris cette direction et quelles auraient pu être leurs intentions?
Je pense que la direction prise par les terroristes n'est pas anodine. Elle est révélatrice des sponsors éventuels qui ont été derrière cet acte barbare. Se diriger vers l'Ukraine montre clairement que c'est une attaque ennemie du bloc occidental, de la coalition internationale occidentale qui, par des mercenaires, a tenté d'infiltrer le dispositif russe et perpétrer cette violence. Et je dirais du même coup que leurs intentions ne peuvent être autres que celles d'agresser le peuple russe dans sa posture actuelle, notamment à travers l'opération spéciale de dénazification de l'Ukraine et des régions de Donbass. Et c'est aussi un acte qui, je le rappelle, c'est quand même au lendemain d'un exploit démocratique qui a été réalisé, qui montre que l'ensemble des institutions démocratiques russes connaissent une vitalité parce qu'aucune entrave n'a été signalée par rapport à la vitalité de cette démocratie. Et vous savez qu'il y a des gens qui veulent avoir le monopole du processus démocratique dans le monde, c'est le bloc occidental, et voir qu'aujourd'hui, ils n'ont ni le monopole de ce processus et des autres éléments. Et donc cet acte vient remettre en cause le droit pur et simple des peuples à disposer d'eux-mêmes et notamment des peuples russes qui ont été victimes.
Monsieur Takwe, pourquoi selon vous les terroristes ont pris la fuite en direction de l'Ukraine?
Ou bien les auteurs de ce coup regagnaient réellement ainsi directement leur base arrière en Ukraine et c'est une forte probabilité qu'ils allaient y rendre compte là-bas à leur commanditaire. Ou bien ils étaient dans un plan de simulation frisant à faire croire que l'attaque était vraiment commanditée par l'Ukraine. Et sur ce point aussi, les regards se tournent vers ceux qui auraient pu être les vrais commanditaires, en l'occurrence les adversaires de la Russie, c'est-à-dire ceux du bloc de l'OTAN. Dans tous les cas, cet attentat est commandité de l'extérieur.
Monsieur Diallo, qui, à votre avis, pourrait être derrière ou intéressé par l'organisation de cet attentat, qui, selon des analyses d'experts, semble bien s'être préparé en avance?
Bon, moi je ne peux pas endosser la responsabilité de cette attaque à Daesh, d'autant plus que les auteurs, après leur arrestation, ont dit qu'ils ont fait ça à cause de l'argent. Donc moi je vois qu'avec les enquêtes, nous pourrons finir par savoir qui sont les vrais auteurs, qui sont cachés réellement derrière ces atrocités. Sinon, je ne crois pas que c'est Daesh. Si on met la responsabilité de cette attaque sur Daesh, ça va également soulager ceux qui sont les vrais auteurs parce qu'ils vont dire que ce n'est pas eux. Ils vont soutenir également cette version qui sera citée par les médias.
Monsieur Tunkara, pour vous, qui est derrière l'organisation de cet attentat?
Les groupes terroristes partout ils sévissent, généralement bénéficient ou bénéficieraient de complicité de la part de certains pays voisins. C'est le cas du Mali, c'est le cas au Burkina Faso, c'est le cas au Niger. La Russie ne fait pas exception à ce qu'elle soit victime d'un complot qui pourrait venir de son voisinage immédiat ou même d'un complot qui pourrait être orchestré par des acteurs à partir de l'intérieur même de la Russie.
Et selon vous, M. Bayala, qui est derrière cet attentat?
Comme je le disais, pour moi, celui qui est intéressé par ces attentats funestes et extrêmement graves, c'est naturellement le bloc occidental qui, depuis maintenant 2 ans, tente avec l'armement et avec les mercenaires déployés en Ukraine, n'arrive pas à atteindre ses objectifs et étant tenu en échec sur le plan et le front militaire ont décidé lâchement de s'en prendre à des civils pour se donner l'impression qu'ils prennent le dessus. Et c'est là où je pense que le peuple russe, tout en pleurant ses morts, tout en pleurant cette tragédie, même si c'était un seul mort qui méritait toute l'attention, doit savoir garder la tête de ses victoires intactes parce que effectivement, c'est une riposte à ses victoires éclatantes sur le terrain et celui qui est intéressé de porter ce coup contre des civils non armés, c'est le bloc occidental qui veut se donner un sentiment de victoire dans la pitié et dans la tristesse. Et c'est là où cet acte barbare est encore plus innommable, inqualifiable et complètement indigne de l'espèce humaine tout court. Et les auteurs qui ont perpétré cela, eux et leurs relais qui ont exécuté de façon lâche cette boucherie dans cet espace de création, devront répondre tôt ou tard. Et nous savons très clairement que les autorités russes, par le discours que le camarade président Vladimir Poutine a donné, que nous avons écouté, que des réponses adéquates vont être apportées à cette tentative de déplacer le combat pour s'en prendre à des populations civiles.
Monsieur Dossou, que pensez-vous de ce mode opératoire choisi par les organisateurs de ce genre d'attaque?
D'abord, il faut dire que cette attaque a été menée de façon minutieuse. Cette attaque a été menée à la force spéciale. Les éléments qui ont mené, les assaillants qui ont mené cette attaque l'ont fait de façon bien précise, comme des gens bien entraînés, comme des forces spéciales. Du coup, il faut se demander, mais est-ce que c'est vraiment la tactique de l'État islamique? Est-ce que c'est une méthode de l'État islamique souvent? Mais pour la plupart du temps, on n'a jamais vu l'État islamique mener une attaque, s'exfiltrer aussi rapidement et partir. Souvent, ils viennent, ils mènent des attaques du genre là, ils mènent des attaques suicides. Ils font exploser une bombe, ils tirent et ils restent là jusqu'à ce que les forces viennent les arrêter ou les tuer aussi. c'est des attaques suicides souvent qui se passent. La méthode de l'État islamique n'est pas forcément celle-là qui a été utilisée à Crocus, à l'hôtel de ville, contre l'hôtel de ville de Crocus. Du coup, il faut se poser la question, mais pourquoi elle a revendiqué cette attaque? Pourquoi l'État islamique a revendiqué l'attaque? Donc là, on va un peu en arrière et on revient à certaines révélations qui ont dit, et dans certains médias où il a été question du fait que le groupe État islamique n'est qu'un instrument d'une certaine puissance occidentale ou de certaines puissances occidentales. Et c'est là qu'on revient et puis on dit, ben voilà, si ce n'est que ça, ça veut dire que l'État islamique a été mandaté pour prendre la responsabilité de cette attaque, même si elle ne l'a pas fait.
Monsieur Bayala, l'un des participants admet après son arrestation qu'il a accepté de participer à l'attaque pour de l'argent et qu'il a tiré sur tout le monde sans discernement. Cette attitude est contraire à la tactique de Daesh, dont les motivations sont idéologiques. Qu'en pensez-vous?
Non, le mode opératoire de Daesh, pour ce qui les connaît et pour les réclamations idéologiques qui sont toujours les siennes, les leurs, on peut clairement s'interroger sur le fait qu'ils ne servent pas des causes occidentales dans la réalité. Et parce que Daesh, s'en prendre de façon aveugle et de cette manière à des personnes dont ils sont censés ne pas connaître les identifications ou les qualifications idéologiques et tirer à tout vue, je crois clairement que non, c'est juste une sorte de vernis qu'on essaie de mettre sur la responsabilité occidentale dans cette boucherie. Et Daesh joue le dindon de la farce au bénéfice de déculpabiliser l'Occident et l'OTAN, qui sont clairement, et il faut avoir quand même le courage, et de notre point de vue, s'il y a des gens qui tirent un grand profit de cela, et il ne faut que regarder la ligne éditoriale depuis hier que cette barbarie est intervenue des médias occidentaux, et on se rendrait compte que c'est presque comme si c'était une victoire, et comme si finalement Daesh était un allié ou un bras allongé ou une sorte de prolongement du bloc occidental pour pouvoir se donner un certain sentiment de progression.
Et selon vous, Monsieur Takoué, que pensez-vous du mode opératoire des assaillants?
Si l'on se focalise sur Daesh, on ferait fausse route, car ce serait une piste détournée. Ceux qui font croire à cela font de la diversion, tout simplement. Daesh est loin de cette attaque et la probabilité est grande. Alors, faire croire que Daesh revendique cette attaque dédouane effectivement les vrais commanditaires, alors que ce n'est pas le procédé de Daesh. A-t-on par ailleurs entendu crier « Allahu Akbar » reçu les lieux au moment de l'attaque? Ah, de plus, ils ont tout fait pour que cet acte ressemble à une opération à la Daesh, mais c'est raté. On voit bien que c'est raté. Mais il y a une chose curieuse qui est en dessous quand même. Et je vais vous dire, c'est cette chose curieuse-là. On sait que Zelensky est en passe de demander des négociations avec la Russie, le président Poutine, pour obtenir cessez-le-feu. Mais est-ce que cela est vraiment dans l'intérêt de ses parrains occidentaux? Est-ce que ce n'est pas pour pousser la Russie à croire que cette attaque vient directement de l'Ukraine, alors que Zelensky serait maintenant en passe de négocier? Sinon, pourquoi les auteurs du coup se sont enfuis directement en direction de l'Ukraine après le acte? Est-ce que ce n'est pas aussi pour faire perdurer de cette façon carnassière le conflit ukrainien, en enlevant ainsi à l'Ukraine tout espoir de négociation avec la Russie? Voilà les questions qu'on se pose.
C'était Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Modeste Dossou, analyste et chroniqueur béninois, Lianoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabé, Abdoulaye Diallo, président fondateur du réseau des communicateurs, chargé de communication du collectif pour la refondation du Mali, et Sylvain Takoué, écrivain ivoirien pour Spoutnik Afrique. Ils nous ont livré leurs analyses de l'attentat qui a frappé la région de Moscou le 22 mars dernier. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique pour la suite de l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Prenons maintenant la direction de la France. Un élu a été démis de ses fonctions dans la ville de Talent, dans la banlieue de Dijon. Cyril Gaucher, adjoint au maire de cette commune, avait participé aux élections en Russie en tant qu'observateur international lors des dernières élections présidentielles russes. Fabien Ruiné, l'édile de cette petite ville, lui reproche de ne pas l'avoir informé de ce voyage en Russie qui, selon lui, ne représente en rien les valeurs portées par la majorité municipale et par l'ensemble des élus de la ville. Ce déchaînement contre M. Gaucher ne s'arrête pas là, puisque la fédération départementale de son parti, les Républicains, ont également pris la décision de l'exclure de son parti. Au micro de Spoutnik Afrique, Cyril Gaucher a commenté ces décisions. Qu'est-ce qu'on vous reproche officiellement Et est-ce que c'est interdit de se rendre enfin à titre personnel en Russie pour surveiller une présidentielle ?
Il n'y a rien d'illégal, même au regard du droit français. Il s'agit là de ce qu'on appelle un procès politique. Il s'agit de donner des leçons au monde entier. Il s'agit de dire, sur la liste des pays du monde, quel pays correspond aux valeurs de la France et de l'Occident, et de considérer que si certains pays, pour des raisons diverses, ne sont pas conformes à l'idée que se fait la France de la démocratie à l'occidentale, alors on peut condamner quelqu'un, on peut, comme on dit, prononcer une fatwa, faire une chasse à l'homme et choisir de rejeter quelqu'un. Donc c'est ce qui m'arrive actuellement, c'est uniquement un procès politique, puisqu'il n'y aura évidemment aucune charge légale qui pourrait être retenue contre moi, mais je peux bien vous confirmer qu'à la fois la ville, la métropole dont je fais partie et mon parti politique, les Républicains, donc ont engagé une procédure d'exclusion. Ça en dit long sur la démocratie en France aujourd'hui.
Mais est-ce que vous trouvez cette décision juste pour la France, qui est considérée comme le pays des droits de l'homme ?
C'est une décision qui est tout à fait injuste, qui est à la fois injuste et injustifiée. Bien évidemment que dans le pays des droits de l'homme, où on donne des leçons d'œcuménisme, de respect, de compréhension des peuples, d'écoute et des leçons en général d'humanisme, on est là à l'opposé total de toutes les valeurs que prônent la France et l'Occident. Mais vous savez, c'est pas la première fois, on est devenu assez coutumier du fait. Il y a une ligne de pensée qui est désormais devenue très étroite et il faut s'y tenir. Si on ne s'y tient pas, il arrive ce qu'il m'arrive là. Et je ne suis pas le seul. Et bien des citoyens français, maintenant, font très attention à ce qu'ils disent, très attention à ce qu'ils pensent, très attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils expriment. Cela n'a aucun rapport avec la loi, mais ils savent que s'ils venaient à légèrement s'écarter d'une ligne, alors effectivement, notamment quand vous êtes politique ou une personnalité, par exemple, publique ou artistique, quelle qu'elle soit, alors effectivement, on peut remettre en cause votre carrière et vous jeter plus bas que terre, considérer que vous n'avez rien apporté à votre pays et vous traiter même quasiment comme un traître.
En feuilletant les journaux français, j'ai lu que vous êtes retrouvé au centre d'une polémique en France qui ne cesse d'avoir de plus en plus d'ampleur. Le maire de Talent, Fabien Ruiné, a déclaré que l'État français ne vous a pas donné d'accréditation pour aller en Russie. Ce déplacement, je cite, « ne peut pas être à titre personnel » et d'après ce que j'ai compris, votre cas sera tranché en conseil municipal. Pourquoi ce déplacement à titre personnel est dénoncé à ce point, à ce moment précis ?
C'est un petit peu ce qu'on a dit précédemment. Il y a une pensée unique désormais en France et en Occident qui consiste à choisir des cibles. Il se trouve que la Russie, pour certaines personnes, pas pour tous, pas pour les citoyens, bien souvent pour le peuple, est beaucoup plus lucide. Le peuple a une certaine intuition et les gens, eux, qui sont d'ailleurs d'origines diverses, se rendent bien compte que la France, que ce soit à l'époque colonialiste ou aujourd'hui, a bien souvent voulu imposer sa vision des choses et que finalement, aujourd'hui, le monde, il est multilatéral, chacun a une position qui est libre et l'objectif, c'est que les peuples discutent les uns avec les autres. Les gens ne sont pas idiots. Par contre, il se trouve en France qu'il y a une forte résistance d'une certaine pensée unique qui touche principalement le monde politique et les médias. Ces deux sphères-là sont particulièrement coutumières de ce genre de choses. Donc leur idée, effectivement, c'est de considérer que j'ai quasiment trahi la ville dont je suis élu parce que je serais allé donc assister à une élection présidentielle en Russie. C'est particulièrement faux et mensonger. D'une part parce que le maire l'a reconnu lui-même, je n'étais pas sous mandat ni de la ville ni de la France, donc je l'ai fait de façon indépendante et personnelle. Deuxièmement, que ce soit auprès de vous aujourd'hui ou auprès des journalistes internationaux ou russes que j'ai rencontrés à Moscou, jamais je n'ai engagé la parole de ma ville, je ne représentais pas ma ville. C'était là une logique d'expert indépendant qui notamment venait étudier des processus de vote, qui venait contrôler des opérations de vote et regarder comment ça se passait techniquement. On était là bien loin d'une représentation de ma ville qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la Russie, cela n'aurait tout à fait aucun sens. Leur objectif, en tout cas, c'est de se trouver des boucs émissaires. Dans ma petite ville, je vous le dis, ça intéressera assez peu peut-être les auditeurs de Spoutnik, mais hélas, il y a eu dimanche soir un jeune d'une quinzaine d'années qui a été assassiné dans le cadre de trafic de drogue et de règlement de comptes dans ce qu'on appelle en France une zone urbaine sensible, un quartier un petit peu difficile. Et voilà la réalité de cette petite ville, de ma petite ville de 12 000 habitants. Donc c'est vous dire qu'il y a bien d'autres problèmes à gérer, bien d'autres priorités, et que s'il y a à faire preuve de courage, ce serait plus peut-être face à ces mafias, face à ces trafiquants de drogue, qui encore dimanche soir ont tué un jeune garçon de 15 ans. Mais non, on préfère s'en prendre à un élu qui est allé faire un voyage de 4 jours en Russie et qui librement a pu observer et s'exprimer sur une élection.
C'était Cyril Gaucher, ex-adjoint au maire de Talence pour Spoutnik Afrique. Il a commenté la décision prise par le maire de cette ville française et de son parti politique pour avoir participé à l'élection présidentielle russe en tant qu'observateur international. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre émission. Dans la deuxième partie de mon émission Zone de Contact, nous parlerons éducation avec les ministres du Mali et du Burundi, ainsi qu'avec le vice-ministre guinéen de l'éducation supérieure qui ont assisté au forum Dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde changeant à Moscou. A tout de suite! Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique. De retour pour la suite de Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre sur Radio Spoutnik Afrique. Je vous salue si vous venez de brancher votre poste de radio à l'instant. Le forum Dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde changeant s'est déroulé le 22 mars dernier à Moscou. Plusieurs délégations africaines avaient fait le déplacement dans la capitale russe pour l'occasion. Cet événement est organisé dans le sillage du dernier forum Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, au cours duquel des accords ont été signés. Ces derniers ont déjà débouché sur l'ouverture d'un centre de langue russe au Mali et sur la signature de multiples mémorandums entre universités. Enfin, on peut rappeler à cet égard que Moscou a augmenté le nombre de bourses pour permettre aux étudiants africains de venir étudier en Russie gratuitement. À titre d'exemple, pour la prochaine année universitaire 2024-2025, 290 étudiants maliens pourront prétendre à l'obtention d'une bourse pour des formations en licence, master et doctorat. Au micro de la correspondante de Spoutnik Afrique, Bourema Kansaye, ministre malien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous a partagé ses attentes en matière de coopération dans le domaine de l'éducation avec la Russie.
Votre Excellence, merci de nous accorder le temps. Merci d'être ici. Bienvenue à Moscou. Pourquoi être venu à cet événement et qu'entendez-vous de la coopération avec la Russie dans le domaine de l'éducation et pourquoi l'éducation russe est-elle demandée dans votre pays?
Nous sommes ici dans le cadre de la session stratégique consacrée à l'enseignement supérieur organisée par la Haute École d'économie. Nous avons répondu à leur invitation parce que nous pensons qu'il est très important que l'Afrique en général et le Mali de manière particulière puissent discuter avec la Fédération de Russie sur cette question de l'enseignement supérieur, parce que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique constituent, à notre avis, un pilier central du développement économique et social de tous les pays. Donc les pays africains, comme vous le savez, connaissent des transformations très importantes ces dernières années, qui sont des transformations profondes et irréversibles. Donc il est tout à fait naturel que ces pays puissent avoir beaucoup plus de partenariats, et cette diversification vers la Fédération de Russie, je pense bien, est une nécessité. Alors, la formation russe dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est quand même connue pour sa qualité. Il faut rappeler que pour ce qui concerne le Mali, il y a au moins une dizaine de milliers de personnes qui ont été formées par l'Union soviétique dont la Russie est héritière. Et depuis quelques années, il y a plusieurs centaines de Maliens qui viennent étudier ici dans le cadre des bourses octroyées par l'État russe ou dans le cadre contractuel. Donc il n'y a aucun doute par rapport à la qualité de l'enseignement supérieur, parce que moi-même, je suis le produit de l'université russe, il faut le souligner. Donc depuis que j'ai eu le baccalauréat, j'ai étudié ici et j'ai fait ma thèse aussi ici en Russie. Donc je comprends bien que de plus en plus de jeunes maliens et africains choisissent de venir faire leurs études universitaires ici en Russie.
Effectivement, Vladimir Poutine a déclaré à l'issue du deuxième sommet Russie-Afrique que la Russie poursuivra sa coopération avec les pays africains dans le domaine de l'éducation et de la formation du personnel et que des efforts conjoints seront déployés pour créer des filiales des grandes universités et écoles russes en Afrique. Pourquoi est-ce important pour vous, pour le Mali en particulier? Pourquoi voulez-vous que la Russie vous aide?
Merci beaucoup. Effectivement, à l'issue du sommet Russie-Afrique, le Mali a pu signer avec la Fédération de Russie deux mémorandums importants. Un mémorandum sur l'enseignement supérieur, le développement de l'enseignement supérieur, et un autre sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Et la mise en œuvre de ces deux mémorandums a rapidement suivi. Il y a eu des échanges de délégations. Il y a eu la mise en place des centres de langue russe et il y a eu beaucoup d'activités scientifiques qui ont été organisées entre les institutions d'enseignement supérieur du Mali et leurs homologues de la Russie. Donc c'est pour donner suite à cette déclaration qu'il y a une volonté politique émise par la partie russe et donc cette dynamique s'est déclenchée. Et je pense bien que l'Afrique a besoin, tout naturellement, d'un transfert de compétences et de technologies pour assurer son décollage économique. Vous savez bien que l'innovation technologique aujourd'hui, c'est ce que certains appellent les miracles économiques. Non seulement dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais sa répercussion se retrouve également dans le monde des affaires. Donc, c'est dans ces dialogues entre université et entreprise, la question scientifique et la question de l'innovation technologique est au cœur donc, du développement. Ce qui fait que le fait de coopérer avec la Fédération de Russie dans le domaine de l'enseignement supérieur et dans le domaine de la recherche scientifique va certainement diversifier les partenariats pour nous permettre de booster notre économie et pour nous permettre aussi de nous enrichir du point de vue humanitaire parce que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus ouvert. Les jeunes voyagent, ils ont des contacts, ils développent des relations et c'est comme ça qu'en apprenant à se connaître mieux que nous pouvons rendre le monde meilleur. Et je pense bien que c'est dans cette dynamique que nous nous mettrons tout naturellement les renouveaux, il faut le dire, de la coopération entre la Fédération de Russie et la République du Mali.
Merci de cette réponse. Comme vous avez bien fait remarquer, de plus en plus de jeunes maliens font leurs études en Russie. À votre avis, en quoi l'expérience des spécialistes russes dans le domaine universitaire peut être enrichissante pour autres domaines que l'enseignement, par exemple la sécurité énergétique ou bien les médicaments, la médecine, les nouvelles technologies au Mali?
Merci beaucoup. Je pense que la coopération est en train de se faire dans plusieurs domaines. Il y a l'enseignement supérieur avec la formation des étudiants qui y viennent, mais il y a aussi une coopération qui est en train de se mettre en place dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'exploration minière. Je voudrais au passage signaler qu'il y a une grande délégation malienne qui est dirigée par les ministres de l'économie et des finances qui séjournent actuellement en Russie. Et dans le cadre de ces interactions, il y a des contrats importants qui sont en train d'être négociés pour développer des secteurs comme l'énergie, les transports, les secteurs de l'agriculture et d'autres secteurs importants de l'économie. On sait bien que la Russie a une expérience avérée dans tous ces domaines. Ce qui concerne par exemple le domaine de l'énergie, la Russie peut contribuer à la construction des centrales électriques hydroélectriques, des centrales civiles à usage civil nucléaire, mais aussi la construction dans le domaine de l'énergie et renouvelable, avec l'usage du soleil et du vent. Donc dans tous ces domaines, il y a une grande expertise russe qui peut bien servir à faire en sorte que le Mali puisse avoir une pleine souveraineté énergétique et une souveraineté, voire même dans le domaine de ses ressources naturelles. Donc c'est tout cela qui motive tout naturellement le Mali à intensifier sa coopération avec la Fédération de Russie.
Le Mali et les pays de la région ont changé de cap politique et ont quitté le système de la France-Afrique et sont actuellement déterminés à coopérer avec la Russie. En cela, quelles perspectives voyez-vous pour les relations entre nos pays dans divers domaines?
Alors, le Mali a conquis sa souveraineté réelle. D'ailleurs, nous célébrons désormais, chaque 14 janvier, la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Parce que depuis plus de 10 ans, le Mali a connu le terrorisme et une présence massive des forces étrangères, empêchant de lutter de manière efficace contre le terrorisme. Le Mali s'est débarrassé de tous ces systèmes et donc de ce fait s'est débarrassé aussi de certaines tentacules du néocolonialisme. Une véritable coopération et une véritable diversification de la coopération n'est possible que quand le pays est pleinement souverain. Et c'est ce travail de reconquête de la souveraineté qui est en train d'être fait par la transition actuelle en cours au Mali. Donc, nous avons trois principes qui guident nos relations avec les autres pays et qui guident l'action publique. Le premier principe, c'est le respect de la souveraineté du Mali. Tout pays qui respecte notre souveraineté est notre partenaire et notre ami. Deuxième principe, c'est le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali. Tout pays qui est capable de respecter ça peut être aussi notre ami. Et le troisième, c'est que dans toutes les décisions que nous prenons, nous devrions considérer l'intérêt de notre peuple. Donc ces trois principes sont des principes qui sont dans notre constitution nouvelle, à l'article 34. Mais cela certainement ne plaît pas à certains qui sont habitués à tirer les ficelles du néocolonialisme. Et donc nous avons une brouille avec ces pays. Par contre, la Russie est pleinement dans le respect de tous ces principes. Et donc nous avons une coopération très riche et très dynamique aujourd'hui avec la Fédération de Russie que nous apprécions beaucoup et qui nous a permis de casser certaines des chaînes qui nous maintenaient un peu dans une sorte de léthargie. Nous voudrions au passage remercier les autorités russes de nous avoir apporté, à chaque fois que cela a été nécessaire, leur soutien infaillible.
L'un des sujets abordés aujourd'hui est la formation d'une image positive de la Russie chez les jeunes des pays africains. La Russie, comme parfois les pays africains, est souvent victime de stéréotypes véhiculés par les médias occidentaux. Comment peut-on y remédier, à votre avis?
En fait, la chose la plus importante qui parle toujours en faveur d'un pays, ça, ce sont les faits. Quelle que soit la mauvaise foi, quand les faits parlent, les mensonges et la propagande vont s'éclipser. Donc, tous les pays qui ont eu des contacts positifs avec la Russie sont unanimes à reconnaître la sincérité de la coopération russe. c'est le cas du Mali. Au niveau un peu opérationnel, je recommanderais quand même que les milliers d'Africains qui ont été formés dans les universités soviétiques et russes soient souvent les relais de la communication de la partie russe. Parce qu'ils peuvent être des exemples concrets de la qualité de la coopération, mais aussi de la qualité de la formation que les institutions d'enseignement supérieur russes peuvent donner. Et ces gens sont très nombreux à travers toute l'Afrique. En tout cas, pour ce qui concerne le Mali, il y a au moins une bonne dizaine de milliers de cadres qui ont été formés dans le cadre de notre coopération avec l'Union soviétique et après avec la Fédération de Russie. Donc il s'agit aussi de faciliter la mobilité de la jeunesse, parce que c'est très important que les jeunes russes puissent voyager en Afrique dans le cadre de la mobilité, que les jeunes africains puissent aussi voyager en Russie dans le cadre de la mobilité, et que nos chercheurs, nos enseignants puissent aussi donc voyager dans le cadre de cette mobilité pour enseigner, pour faire de la recherche et pour participer souvent à des débats intéressants concernant des problèmes du monde. Je pense que c'est en faisant ces différentes actions que la Russie parviendra à améliorer cette image qui est jonchée, il faut le dire, des préjugés, et à lever donc tout équivoque sur les mauvais jugements que les gens ont sur la Fédération de Russie.
Les études dans les pays africains se font souvent avec des manuels écrits par leurs colonisateurs. Comment renforcer la souveraineté des pays africains dans ce domaine?
Alors, dans ce domaine, il faut souligner qu'il y a des changements importants qui sont intervenus. C'est vrai qu'à la fin de la colonisation dans les années 60, rarement les pays africains avaient réfléchi à réécrire leur manuel, à les changer. Mais pour ce qui concerne le Mali, nous avons effectué une réforme en 1962 dont l'objectif principal était de décoloniser les esprits. Donc, les manuels, effectivement, avaient connu des changements, mais de plus en plus, ces changements deviennent de plus en plus profonds. Donc, la contribution que la Russie pourrait apporter, ça, c'est véritablement de travailler en synergie avec les différents pays africains qui sont intéressés à coopérer avec la Russie pour que la souveraineté culturelle, scientifique, aussi s'affirme, qu'on ne se limite pas à une simple souveraineté politique qui est l'indépendance que nous avons connue à partir des années 60, mais la souveraineté culturelle et scientifique qui sera certainement l'instrument avec lequel on pourrait enterrer les néocolonialismes.
C'était Bourema Kansaye, ministre malien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour Sputnik Afrique. Il nous a partagé les attentes de son pays en matière de coopération avec la Russie. Le Burundi attend également beaucoup de la coopération avec la Russie dans un secteur bien particulier, celui de l'énergie. Un accord intergouvernemental avait été signé entre les deux pays lors du récent sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg dans le domaine de l'énergie atomique. Et pour accompagner cette coopération, le Burundi a besoin de spécialistes qualifiés dans ce domaine. François Virimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du Burundi, est revenu à notre micro sur la formation de cadres en Russie.
Bon, Bonjour, Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous chez Spoutnik Afrique. Est-ce que vous pouvez tout d'abord expliquer pourquoi vous êtes venu à cet événement et qu'attendez-vous de la coopération avec la Russie dans ce domaine?
Merci beaucoup. Je suis venu ici sur invitation de la Russie pour participer à cette session stratégique sur le dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde en mutation. Ça a été une occasion pour nous d'échanger avec les autorités russes, avec tous les partenaires du secteur de l'enseignement supérieur, afin de pouvoir évidemment construire mutuellement un enseignement supérieur capable capable d'induire le développement de nos pays respectifs et évidemment le développement de nos populations.
D'accord. Vous avez mentionné aujourd'hui la coopération dans le domaine nucléaire entre nos deux pays. Mm-hmm. Donc, pourquoi Burundi se tourne vers la Russie pour la coopération dans ce domaine et comment, à votre avis, l'expertise russe peut être utile pour votre pays dans ce domaine?
Oui, évidemment, à l'heure actuelle, le problème énergétique, c'est un problème qui hante notre pays et pas seulement notre pays, mais aussi la plupart des pays africains. Et donc, pour pouvoir développer ce secteur, il faut d'abord avoir des ressources humaines compétentes, capables de développer le secteur dans notre pays, le Burundi. C'est la raison pour laquelle on s'est tourné directement vers la Russie, qui a une expérience avérée en ce domaine, pour que la Russie puisse former nos ressources humaines. Et nous savons que la Russie, c'est un pays ami du Burundi depuis très très longtemps, et donc nous comptons sur cette relation d'amitié pour pouvoir former nos ressources humaines dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Il y a déjà quelques projets qui sont en route dans ce domaine, quelques peut-être coopérations, quelques mémorandums. Est-ce que vous pouvez nommer quelque chose, quelques projets qui sont en cours?
Oui, effectivement, on a déjà des pourparlers avec Rosatom et qui a promis de former les étudiants burundais qui sont ici en formation en Russie. Et donc, on compte sur cette convention avec Rosatom pour pouvoir accéder à la formation de nos étudiants dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Et en ce qui concerne les bourses pour les étudiants burundais, je sais que le nombre de bourses pour les étudiants burundais est actuellement augmenté et ça atteint des nombres assez importants pour l'histoire de notre pays. Donc, comment expliquez-vous cet intérêt des Burundais pour aller étudier en Russie?
Et vous savez, la Russie, c'est un pays qui offre une formation dans des domaines qui sont considérés comme stratégiques pour le développement de notre pays. Donc, c'est nous-mêmes qui définissons les priorités en termes de formation et la Russie accepte de former nos étudiants dans des domaines que nous jugeons prioritaires pour le développement de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment une grande préférence pour les universités russes qui acceptent de former nos étudiants dans ces domaines, je dis bien, qualifiés de stratégiques pour notre pays. Mais aussi, c'est grâce aux bonnes relations qui existent entre le Burundi et la Russie qui nous permet évidemment de créer un environnement propice pour la formation de nos étudiants.
Et quels sont ces domaines stratégiques? Vous pouvez nommer quelques-uns?
Oui, les domaines stratégiques, je vais commencer bien sûr par l'énergie nucléaire. Et je dirais aussi la transformation agroalimentaire, la médecine vétérinaire, les statistiques, et la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Et il y a aussi la maintenance des équipements biomédicaux et beaucoup d'autres domaines.
Et vous savez, aujourd'hui, l'un des sujets qui est abordé, c'est la formation d'une image positive de la Russie chez les jeunes des pays africains. Et donc la Russie, comme parfois les pays africains, aussi devient la victime des stéréotypes véhiculés par les médias occidentaux. Donc comment peut-on remédier? Comment peut-on présenter mieux les pays africains?
Je pense que ce qu'on peut faire, c'est de faire une séance comme celle qui vient d'être faite aujourd'hui, c'est de nous rencontrer, échanger sur les défis des uns et des autres et essayer de trouver une réponse ou une solution aux défis qui hantent les pays africains et la Russie ensemble.
C'était François Avirimana, ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique du Burundi pour Spoutnik Afrique. Il nous a partagé ses attentes en matière de coopération avec la Russie en marge du forum Dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde changeant, organisée à Moscou. La Guinée est également représentée par son vice-ministre de l'enseignement supérieur, Sékou Touré, lors de ce forum. Il faut dire que la coopération entre Conakry et Moscou dans le domaine de l'éducation est très ancienne, puisque la Guinée a été un des premiers pays africains à bénéficier d'un soutien de l'URSS dans ce domaine. Je vous propose d'écouter Sékou Touré, vice-ministre de l'enseignement supérieur de Guinée, sur ce sujet.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes venu à cet événement aujourd'hui et qu'attendez-vous de la coopération avec la Russie dans le domaine de l'enseignement ?
Oui, voilà, j'ai été envoyé ici par monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui était invité en personne, mais compte tenu du fait qu'il vient tout juste de prendre service à la place d'un autre ministre, m'a demandé de venir le représenter. Donc, lorsqu'il s'agit d'enseignement supérieur, surtout dans le cadre de la coopération avec la Russie, c'est un sujet, c'est un événement assez important pour la simple raison que les relations entre la Guinée et la Russie dans le cadre de l'ancienne Union soviétique est très ancienne et c'est la Guinée qui a permis le contact de l'Afrique avec toute l'Union soviétique historiquement parce que au début, les Russes, l'Union soviétique a essayé d'entrer en Afrique en passant par la voie de l'Afrique du Sud, en donnant de la bourse, des bourses d'études aux étudiants d'Afrique du Sud. Mais une fois que ceux-ci terminaient leurs études, ils ne rentraient pas en Afrique du Sud, ils préféraient aller ailleurs. Lorsque le Ghana a pris son indépendance en 60, l'Union soviétique a cru que cette fois-ci, puisque Nkwame Nkrumah est très progressiste, cette fois-ci, l'occasion est mûre pour l'Union soviétique d'entrer en Afrique. Mais compte tenu du fait des relations de M. Nkrumah avec la Grande-Bretagne et ses convictions personnelles, ce n'était pas possible. Il a fallu attendre 1958, lorsque le président Sékou Touré a dit non au référendum du général de Gaulle avec fracas, que cette fois-ci, les Russes ont dit, cette fois-ci, l'occasion est mûre. Et c'est effectivement par la porte de la Guinée que l'Union soviétique, n'est-ce pas, a développé des relations avec tout le continent africain. Tous les mouvements de libération sont venus s'installer en Guinée. Donc, la coopération entre nos deux pays est assez ancienne et assez diverse. Et c'est l'Union soviétique qui a construit la première et la plus grande université du pays, qui s'appelle aujourd'hui l'Université Gamal Abdel Nasser, et où se sont formés non seulement des Guinéens, des cadres guinéens depuis les années 60, mais aussi beaucoup d'autres cadres africains qui viennent s'y former, etc., etc. L'Union soviétique et la Russie d'aujourd'hui est présente dans presque tous les domaines d'activité du pays, notamment les mines. Il y a la grande compagnie russe qui s'appelle Rusal, n'est-ce pas, a une très grande compagnie en Guinée et engagée dans la production, dans l'extraction de la bauxite. La Russie existe dans d'autres domaines d'activité, tels que la santé, n'est-ce pas, tels que le commerce, en tout cas dans beaucoup d'autres activités.
Et dans quel domaine les étudiants guinéens cherchent surtout à faire leurs études en Russie ? Quels sont les domaines ?
C'est en général dans les sciences techniques. Ah. Parce que les sciences sociales sont un peu trop spécifiques à un pays. Donc en général, quand les Guinéens ont l'occasion de venir ici, en général, c'est soit pour l'ingénierie, c'est pour les sciences naturelles ou la médecine.
Et comment l'expérience russe dans
L'économie aussi, bien sûr, l'économie.
Et comment l'expérience russe, l'expertise russe dans ces domaines peut-elle être utile pour votre pays ?
Oui, mais cela est naturel, cela va de soi. C'est la formation du capital humain dont nous avons besoin dans tous les domaines. Par exemple, mon frère de même mère, même père, a été formé dans l'ancien Leningrad. Et il est aujourd'hui, il est allé à la retraite il y a cela un an, deux ans, mais il continue à piloter le programme de master d'économie dans la deuxième université du pays. Et aujourd'hui, dans le système d'enseignement et de recherche en Guinée, ceux qui ont été formés en Russie représentent environ 60-70%. Puis pour piloter tout le système. Donc ils sont là encore.
Non.
Voilà, c'est ça.
Les chiffres sont impressionnants.
Ah bien, voilà.
Et l'un des sujets abordés aujourd'hui lors de cet événement, c'était la formation d'une image positive de la Russie chez les jeunes des pays africains. Et la Russie, comme parfois les pays africains aussi, est souvent victime de stéréotypes véhiculés par les médias occidentaux. Mmh. Donc, comment peut-on y remédier, à votre avis ?
Non, mais est-ce que vous avez besoin de remédier à cela ? C'est une question d'intérêt. Par rapport à des questions comme ça, il faut rappeler que les Russes ont été les premiers à envoyer un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Tout le monde sait que la Russie est le deuxième pays à obtenir l'arme nucléaire. Deuxième pays au monde. Tout le monde sait que la Russie a une économie solide. Malgré toutes les situations qui prévalent aujourd'hui, la Russie a une économie solide. Et le général de Gaulle a dit, je ne sais pas si vous connaissez le général de Gaulle, il a dit que la chose la plus difficile, c'est de n'apporter aucune importance des choses qui n'ont aucune importance. Donc, moi, je n'ai pas de souci que les... C'est une question d'intérêt. Même si les Russes devenaient aujourd'hui capitalistes comme eux, on trouvera de quoi dire, parce que c'est des concurrents. D'accord. Quand on est puissant, on cherche de l'impact, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de... Même si cela était vrai, l'essentiel, c'est quoi? Si les Russes, n'est-ce pas, vivent mieux, quel que soit le système. C'est ce que je pense personnellement.
C'était Sékou Touré, vice-ministre guinéen de l'enseignement supérieur pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur l'importance de la coopération entre Moscou et Conakry dans le domaine de l'éducation. Mesdames, Messieurs, Radio Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle et à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.